Bonjour à tous. C'est une joie pour Madeleine et moi de venir vivre un culte avec vous, de partager la parole. C'est un grand privilège pour moi. Je vous transmets les salutations de l'église Abbé Riviera, bien sûr. Et puis, sachez qu'avant, généralement, avant de partir dans une église, quelle qu'elle soit, je prie en demandant au Seigneur de passer devant moi, d'être au premier plan et que sa parole me rejoigne et vous rejoigne, simplement. Je désire être simplement à l'arrière. Et le titre de ce que je veux partager avec vous ne peut pas vous complexer parce que il s'intitule « Dieu se sert généralement de personnes ordinaires ». Et c'est vrai que le Dieu Tout-Puissant se plaît souvent à œuvrer par le moyen de personnes simples, ordinaires, inconnues du grand public, des personnes jugées de peu d'influence, voire de pas d'influence, des hommes et des femmes, universitaires ou pas, étudiants, apprentis, des enfants, des cadres ou des techniciens de surface, et cela, quel que soit l'âge, la culture, le quotient intellectuel. Et c'est formidable parce que Dieu n'est pas influencé par les titres, la position sociale, la formation ou les relations qu'on peut avoir. Dieu se plaît à se servir de ce qui a peu de notoriété, ce qui est qualifié de faible, de méprisable, de petit, de peu d'apparence, dans le but que la gloire, la sagesse et la puissance soient attribuées à Dieu et pas à l'homme. Alors, en évoquant le fait de personnes ordinaires, simples, je n'enseigne absolument pas que nous devions cultiver le simplisme ou en rester à une sous-culture ou encore végéter dans une sombre ignorance générale. Pas du tout. Au sujet de la paresse intellectuelle, Tozer a écrit ceci. « Prends ta tête, huile-la, frotte-la pour en ôter la poussière. » Et commence à l'utiliser comme Dieu le souhaite. Il s'attend à ce que tu comprennes, que tu saisisses sa vérité, parce que tu en as journellement besoin. Fin de citation. Alors il ne s'agit pas non plus de survaloriser des études universitaires par rapport à d'autres types de formations, quel que soit le niveau et où que ce soit, parce que Dieu va se servir de tout à son heure, de tout ce que nous mettons à sa disposition. Maurice Decker a écrit quelque part dans un de ses ouvrages « Quand Dieu veut mesurer quelqu'un, il ne passe pas son mètre autour de sa tête, mais de son cœur. » Et c'est bien vrai. Et il fait bon s'en souvenir au long de notre parcours. Et nous retenons que Dieu, qui appelle tout être humain à venir à lui, ne fait exception de personne, il ne regarde pas aux apparences, ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes, et il juge impartialement, sans tenir compte des distinctions extérieures. Et cela revient à peu près une dizaine de fois dans la Bible. Et j'ai pensé aux pharisiens et aux hérodiens, qui étaient des adversaires acharnés de Jésus. Ils ont été obligés de reconnaître publiquement ce que je vais vous lire, Matthieu 22, 16. En s'adressant à Jésus, il lui dit « Maître, nous savons que tu es franc et sincère et que tu enseignes en toute vérité comment il faut vivre selon la volonté de Dieu. Tu n'as peur de personne et tu ne t'inquiètes pas de ce que les autres en pensent car tu ne regardes pas la position sociale des gens. » Alors, sortant de la bouche de ses pires ennemis, c'est un bel hommage public rendu au Seigneur Jésus. Mais, la raison profonde de leur parole flatteuse était de piéger Jésus au sujet du denier à rendre à César. Voilà l'intention profonde de ces paroles. J'ai pensé à ce qu'Ecclésiaste 9, 10 nous dit « Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as. Alors j'ai pensé qu'on va jeter un coup d'œil sur quelques témoins dans l'Ancien Testament, des personnes qui ne sont pas des grandes personnalités que Dieu a rejoint au ras de leur culture, au ras de leur vécu. Et j'ai pensé à Gédéon. Vous vous souvenez comment il se qualifiait ? De petit, il était simple, il était faible. En quelque sorte, il se qualifiait un peu de zéro. Alors que l'ange de Dieu lui déclare le contraire. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et pas zéro. Juges 6, 12. Et c'est vrai que le regard que Dieu porte sur nous peut prodigieusement, quelquefois, différer de celui que nous portons sur nous-mêmes. Parce que notre imagination est quelquefois trop fertile dans un sens comme dans l'autre. Et vous savez qu'on appelle quelquefois notre imagination la folle du logis. Deuxième exemple, j'ai pensé à David. Quel genre de personnes se sont rassemblées autour de David alors qu'il était en fuite devant Saül ? 1 Samuel 22, versets 1 et 2 en donnent le détail. David partit de la ville de Gath et se sauva dans la grotte d'Adullam. Ses frères et toute sa famille l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des dettes ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent autour de lui et il devint leur chef. Si nous étions une personnalité publique, aimerions-nous être entourés et accompagnés par des gens à problème, endettés? Bref, une équipe bout de bois, comme on dit. Alors, à ce sujet, le commentaire de la seconde 21 est très intéressant. Je le cite, « La capacité de David à maîtriser cette bande hétéroclite témoigne de son habileté à diriger et à motiver autrui. S'il est difficile de mettre une armée sur pied en enrôlant des hommes normaux, entre guillemets, le faire avec des hommes tels que ceux qui suivent David requiert des qualités de chef exceptionnelles. » Et le commentaire ajoute, ce groupe formera le cœur de son état-major et fournira ses vaillants hommes. Voyez la différence qu'il y a. Troisième exemple, Amos était un homme ordinaire, un humble berger de troupeaux de moutons et il cultivait les sycomores. Et il l'est dit lui-même, il n'était ni prophète de métier, ni disciple d'une école de prophètes. Il était l'un des humbles bergers à Tekoa, cultivant les sycomores. Et j'ai lu à quelque part que le fruit du sycomore est une variété de figues de saveur moins raffinée que celle du figuier. Et l'incision que l'on fait peu avant la récolte rendait les fruits un peu meilleurs. Ces figues du pauvre, comme on les appelait, servaient aussi à nourrir le bétail. Amos était donc un homme du commun, un fils de la terre, ordinaire, comme quasiment tous ses contemporains. Mais Dieu lui a confié un message extraordinairement nécessaire pour son peuple, mais aussi extraordinairement difficile et délicat à transmettre à son peuple. Amos, berger, cultivant des sycomores, n'a pas flanché. Toutes les visions que l'Éternel lui a confiées, il les a transmises au peuple qui vivait alors dans la prospérité, mais dans la dégradation morale et les injustices sociales. Les pauvres étaient oppressés, ils étaient même réduits à l'état d'esclaves, et la corruption régnait. Alors c'est à ces risques et périls qu'Amos a rempli ce rôle délicat de messager de l'Éternel, parce qu'à un moment donné, Amathias, qui était prêtre à Bethel, et donc représentant officiel de la religion d'Israël, ne supporte plus l'annonce des menaces divines qu'Amos transmet courageusement. Alors je cite Amos 7, versets 10 à 17. « Alors Amathias, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, le roi d'Israël, « Amos conspire contre toi au milieu de la commune, de la communauté d'Israël. Le pays ne peut pas supporter toutes ces paroles. » En effet, voici ce que dit Amos. « Jéroboam, le roi, mourra par l'épée et Israël sera exilé loin de son pays. » Et Amathias dit à Amos, « Visionnaire ou homme à vision, va-t'en au pays de Juda et mange-y ton pain. Et là, tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi, c'est une maison royale. » Se laisse pas démonter, Amos. Il répondit à Amathias, « Je ne suis pas prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, comme il l'a fait avec David, et c'est lui qui m'a dit, « Va prophétiser à mon peuple Israël. » Et maintenant, écoute la parole de l'Éternel, toi qui dis, « Ne prophétise pas contre Israël et ne parle pas contre la famille d'Isaac. » À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. Ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ton champ sera partagé au ruban à mesurer. Toi, tu mourras sur une terre impure et Israël sera exilé loin de son pays. » Fin de citation. Il ne pouvait pas arriver pire pour un juif, surtout pour un responsable religieux. J'ai enrichi ma méditation par une note de la seconde 21 qui mentionne comme ordinaire des personnes que je cite, et c'est des personnes que Dieu a empoignées pour le servir et lui rendre témoignage. Et il faut voir ces personnages, ces personnes, tout au départ. Abraham, Isaac et Jacob, qui sont loin d'avoir mené une vie rectiligne. Joseph, alors esclave et prisonnier en Égypte. Moïse, meurtrier en Égypte, puis simple berger en Madian. Et puis une petite jeune fille, exilée, témoin auprès de la femme du général Naaman. Jephté, fils d'une prostituée. David, berger et petit dernier d'une grande famille. Esther, orpheline, par l'intervention de laquelle Dieu a sauvé de la destruction le peuple juif. C'était mon premier point. Le deuxième, c'est quelques témoins dans le Nouveau Testament. Marie, fille de la campagne, choisie pour être la mère du Messie. J'ai pensé aussi à l'aveugle-né, dont le témoignage a confondu les chefs religieux et il s'est fait expulser. Mais il ne savait rien. Et puis, une simple poignée d'hommes, des pêcheurs professionnels de poissons, ils seront choisis par le Seigneur pour être pêcheurs d'hommes. Qu'est-ce qu'ils avaient d'extraordinaire ? C'était des jeunes hommes de l'âge de Jésus. Et peu après que leur maître soit remonté dans la gloire, Actes 4, 13 nous apprend que le regard que les chefs religieux portaient sur ses disciples, qui témoignaient avec hardiesse, était le suivant. Voilà comment ils sont qualifiés, ces disciples. Ils savaient que c'était de simples laïcs qui n'avaient pas fait d'études. Ils se rendaient compte de ce que signifiait pour eux d'avoir été avec Jésus. Et pour les caractériser, les chefs religieux emploient les deux mots grecs que voici, « idiotai », qui ne signifie pas « idiot », mais des gens simples, des gens du peuple. Et puis le deuxième terme, c'est « agrammatoi », désignant ceux qui n'ont pas suivi la filière rabbinique. Ceux qui n'ont pas fait, aujourd'hui on le dirait, d'études universitaires. J'ai pensé à un autre témoin simple, un jeune, un jeune garçon, on ne connaît pas son nom. Il avait un bon pique-nique, 5 pains, 2 poissons. Il les a mis à disposition du Seigneur et nous connaissons la magnifique multiplication que le Seigneur opère. Et j'imagine la stupéfaction de ce garçon en voyant ses pains, ses poissons se multiplier. On peut imaginer les pensées qu'il avait dans son cœur et combien il a dû découvrir la puissance du Fils de Dieu. Et alors, en raison de la générosité de ce garçon simple, Dieu aurait pu nous donner son nom, mais ce n'est pas nécessaire, et bien, cette histoire figure dans les 4 évangiles. Et on parle de lui, de ce garçon tout simple, dans le monde entier, comme ici ce matin à Renan. Et puis, j'ai pensé encore aux 70 disciples choisis par Jésus et dont nous n'avons pas les noms. C'était aussi probablement des pêcheurs ou des agriculteurs, nous ne savons pas, on n'a pas besoin de le savoir. Mais ils ont opéré des miracles, ils ont chassé des démons au nom de Jésus. Mais c'était des gens ordinaires. Puis j'ai pensé encore à un neveu, le neveu de l'apôtre Paul. Nous n'avons pas non plus son nom. Et il a été un instrument dans la main de Dieu pour protéger l'apôtre Paul. Il a fait un rapport complet aux dirigeants romains du complot des Juifs qui visaient à le tuer, etc., etc. À la fin du livre des Actes, qui est un livre passionnant à lire l'été parce que c'est plein d'actions, d'interventions, de miracles, mais aussi de difficultés, eh bien, ce livre nous raconte l'histoire de l'Église qui grandit. Et alors je cite de nouveau la note de la Bible Second qui dit ceci, le livre des Actes raconte l'histoire de l'Église en s'intéressant à son expansion progressive de Jérusalem aux villes les plus influentes du monde, à savoir Antioche, Éphèse et Rome. Il relate aussi les puissants miracles et témoignages de héros et martyrs de l'Église primitive tels que Pierre, Étienne, Jacques ou Paul. Tout ce ministère est maintenu dans l'unité due par le Saint-Esprit à l'œuvre, j'ai mis ça en gras dans mes notes, à l'œuvre dans la vie de gens ordinaires, des marchands, des voyageurs, des esclaves, des prisonniers, des responsables d'église, des hommes, des femmes, des non-juifs, des juifs, des riches, des pauvres. Plusieurs générations successives de fidèles héros de l'ombre ont poursuivi la tâche grâce au Saint-Esprit. Nous pouvons rejoindre les rangs de ces héros de l'ombre parce que l'expansion de la bonne nouvelle, pour que l'expansion de la bonne nouvelle se poursuive, et c'est le même message que nous devons communiquer afin que toujours plus d'hommes et de femmes puissent entendre et croire. Alors, en dernier point, je dis que nous sommes d'humbles témoins, nous aussi, auprès de personnes proches de nous. Et nous qui sommes des gens ordinaires, nous avons aussi besoin du courage de ces porte-paroles mentionnées, et il y en a tant d'autres, parce que le message de l'Évangile n'est pas populaire, de moins en moins. Et c'est au travers de gestes d'obéissance ordinaire que nous sommes appelés à être des témoins. Le Christ nous a dit, mais vous êtes le sel et la lumière de ce monde. Témoignez de l'amour à vos ennemis. Et on en aura et on en a. Priez pour ceux qui vous poursuivent de leur haine. Et invitez nos voisins pour une tasse de café ou un apéro. Peut-être quelque chose de tout simple. En offrant notre prière, en assurant certains voisins de nos prières, les sachant dans la difficulté, dans la maladie, ça ouvre les cœurs. On le vit avec une famille de nos voisins. Et puis, j'ai pensé à des choses pratiques, un mot d'appréciation, de reconnaissance adressé à notre boulanger, si nous allons à la boulangerie, s'il y en a encore une, aux caissières du petit commerce du coin ou de grandes surfaces sont des gens qui ont besoin d'encouragement. Ils voient défiler des clients. Et puis, à écrire un petit mot de compassion, d'estime à des endeuillés, même si on ne les connaît pas, mais on a leur adresse dans les journaux, ça peut leur faire du bien, surtout si on ne leur cite pas 6 versets bibliques. Notre compassion du cœur, simplement. Et ça peut amener la relation un peu plus tard. Et puis un mot d'appréciation, d'encouragement au facteur. Il y a quelques années, on pouvait l'inviter pour boire une tasse de café dans sa tournée. Ils sont minutés, c'est plus possible maintenant. Mais au moins leur dire, j'apprécie votre service. Et ça m'arrive plus d'une fois quand je le rencontre. Il vient tourner sur notre parking, là. Et puis les personnels éboueurs sont toujours au pas de course. On n'a peut-être même pas le temps de leur adresser la parole. Mais on peut leur dire merci pour leur boulot. Celui qui balaye aussi dans les rues. Saluer des passants sans les connaître. À nous de discerner. Que notre comportement soit social, sociable, sympa, décontracté, naturel. Et on a besoin d'être rafraîchis, renouvelés nous-mêmes dans notre foi. Demandons à Dieu, le Saint-Esprit, de nous rafraîchir, de nous encourager, de nous inspirer. Vous savez, le Seigneur Jésus est très au courant de notre potentiel, de nos craintes aussi. Il sait ce que nous pouvons devenir comme aide et comme témoin autour de nous, là où nous vivons. Malgré nos défaillances, notre point faible, il lit dans notre cœur que nous l'aimons par-dessus tout. Et c'est ça l'important. C'est ce qu'il cherche, notre amour, notre cœur. Et chaque fois que nous confessons notre péché, quel qu'il soit, il nous remet sur pied, nous purifie. Grâce au sang versé à la croix, il nous instruit, nous relance dans notre témoignage. Dieu ne se découragera jamais avec nous. Et il emploie même nos échecs, nos bêtises, nos travers pour nous former, nous réformer, pour ouvrir notre intelligence spirituelle. Alors j'arrive à ma conclusion, si nous regardons à nous-mêmes, ça nous arrive tous, nous serons découragés. Si nous regardons aux autres, nous risquons, ou du moins nous courons le risque d'être déçus tôt ou tard. Si nous regardons au Christ, constamment, de nouveau, à nouveau et à nouveau, nous ne serons ni découragés, ni déçus, mais toujours accueillis, écoutés, compris, encouragés à devenir des encourageurs pour nos populations. Et mon cœur n'oublie pas, comme le vôtre, les quelques 300 millions de chrétiens actuellement persécutés dans le monde. Il y a de quoi nourrir notre prière, développer notre compassion, ouvrir notre bourse pour aider là où c'est possible. Alors je termine en disant que pour moi, Dieu est le Dieu de toute grâce et le Père des miséricordes. C'est pas vrai, je termine pas vraiment. Je voudrais vous lire encore un dernier récit, ce que Monsieur le Président m'accorde encore 2 minutes. Merci. Petit récit qui s'intitule « Êtes-vous Jésus ?» Il n'y a pas très longtemps, l'auteur de ce texte, de ce vécu, dit qu'il a entendu une histoire qui m'a aidé à considérer à nouveau le pouvoir paradoxal qu'on découvre en vivant le moment présent. Il y a quelques années, un important administrateur d'une ville de l'Est des États-Unis courait pour attraper le train. Il avait presque abandonné l'espoir de vivre une vie quotidienne personnelle à cause des exigences que lui imposaient ses obligations professionnelles. Ce matin-là, sur le chemin de la Grande Gare Centrale, il s'était promis d'essayer d'être un chrétien pendant cette journée au lieu de se contenter d'en parler. Il était déjà en retard au moment de prendre son billet. Courant à travers le hall et le long de la rampe avec ses bagages, il entendit le dernier « en voiture ». Il était sur le point de sauter dans le train quand il bouscula un enfant avec sa valise. Le petit garçon tenait à la main un puzzle tout neuf dont les pièces s'éparpillèrent sur le quai. L'administrateur hésita, vit l'enfant en larmes et, ravalant un soupir, s'arrêta et sourit et aida le petit gars à ramasser son puzzle tandis que le train démarrait. L'enfant l'observait attentivement. Quand il eut fini de ramasser toutes les pièces, il le regarda avec une sorte de crainte en lui demandant, en hésitant, « Monsieur, êtes-vous Jésus ?» À cet instant, l'homme réalisa sur ce quai de gare qu'il l'avait été pour ce petit garçon. Alors je laisse quelques exemplaires de ce récit à disposition. Merci pour votre patience.